par Georges Léonard Taliot. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal présenté par Nanit Talani, les 7h en temps universel. Au sommaire, retrait du projet de budget au Kenya, le président William Ruto semble avoir entendu les manifestants. Discussion fructueuse entre Israël et les États-Unis sur la livraison de munitions. Rapport des États-Unis sur la liberté religieuse, l'antisémitisme et l'islamophobie en hausse dans le monde. La Cour suprême américaine soutient l'intervention du gouvernement sur les réseaux sociaux. Pour le rendez-vous sportif, nous aurons les nouvelles de l'Euro 2024 et de la Copa américaine. Puis en MAG, la Côte d'Ivoire lutte contre un taux alarmant du suicide, un sujet tabou dans plusieurs pays. D'abord, voici le journal. Les Kenyans se préparent à descendre dans la rue ce jeudi pour une marche blanche. Au lendemain de l'annonce par le président William Ruto du retrait du projet de budget prévoyant des hausses d'impôts à l'origine d'une contestation qui a sombré dans une violence meurtrière. Le président William Ruto a en effet annoncé hier le retrait de son projet de budget 2024-2025 qui prévoyait cette hausse d'impôts mais qui malheureusement a été à l'origine d'une vaste contestation dans le pays ayant fait une vingtaine de morts, le point avec Rosine Munezero.
Le peuple a parlé après avoir écouté attentivement le peuple kényan qui a dit haut et fort qu'il ne voulait rien avoir à faire avec ce projet de loi de finances 2024. Je m'incline et je ne promulguerai pas le projet de loi de finances 2024 qui sera par conséquent retiré, a déclaré William Ruto. Dans son discours au lendemain d'une troisième journée de mobilisation en 8 jours contre ce texte qui a fait 22 morts selon l'organe officiel de protection des droits humains, le chef de l'État a appelé à une concertation nationale avec la jeunesse. Le projet de loi est retiré, mais allez-vous rendre la vie à tous ceux qui sont morts ? A immédiatement réagi sur X Hanifa Adan, une des figures de la contestation, qui avait plus tôt dans la journée appelé à une marche blanche pacifique à la mémoire des victimes jeudi. Nelly, 26 ans, dit qu'elle se rendrait jeudi à cette marche. « Nous allons marcher pour un meilleur avenir au Kenya », a-t-elle affirmé. « Le droit à manifester doit être respecté par les autorités kenyanes », a dit mercredi un porte-parole de la Maison-Blanche. Puisque nous nous sommes débarrassés du projet de loi de finances 2024, il est nécessaire d'avoir une conversation en tant que nation à l'avenir. Comment gérer ensemble notre situation d'endettement? Je proposerai un engagement avec les jeunes de notre nation, nos fils et nos filles, a annoncé M. Ruto.
Les Mauritaniens élisent leur prochain président samedi. Environ 1,94 million d'électeurs sont appelés à choisir parmi 7 candidats, dont le chef de l'État sortant, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui, après un premier mandat, s'est fixé comme priorité la lutte contre la pauvreté et le soutien à la jeunesse. Les moins de 35 ans représentent plus de 70% de la population. La Cour pénale internationale a condamné hier un chef de la police islamique pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité lors de la prise du pouvoir par les rebelles dans la ville de Tombouctou en 2012 et 2013. Al-Hassan Ag Abdul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, dit Al-Hassan, un Malien de 46 ans, a été reconnu coupable de torture et d'atteinte à la dignité humaine pour des actes commis dans la ville, alors sous le joug djihadiste. Selon le juge Antoine Kessiam Demindoua, il a supervisé des amputations et des flagellations en tant que chef de la police islamique de la ville. En Guinée, la justice jugeant 12 anciens responsables militaires et gouvernementaux au procès du massacre du 28 septembre a mis son jugement en délibéré au 31 juillet. Le président du tribunal, Ibrahima Sori de Toukara, a annoncé cette date après les dernières plaidoiries et les ultimes prises de parole des différents accusés, dont l'ex-leader Moussa Dadis Camara. Ils répondent d'une litanie d'assassinats, d'actes de torture, de viols, d'enlèvements en masse le 28 septembre 2009 et les jours suivants.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, estime qu'il y a eu des progrès significatifs sur la question du transfert d'armes américaines vers Israël. Il a fait savoir hier, après des discussions avec des responsables américains à Washington, le point avec Mamadou Oumfa.
Après avoir rencontré Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden, visite durant laquelle il a également vu le secrétaire d'État Anthony Blinken et son homologue Lloyd Austin, le ministre israélien de la Défense, s'est voulu rassurant. Durant ces réunions, nous avons réalisé des progrès significatifs, des obstacles et des goulots d'étranglement ont été levés pour avancer sur un certain nombre de sujets et plus particulièrement la question du renforcement des forces et de la livraison des munitions que nous devons apporter à l'État d'Israël, a déclaré M. Gallant. Je voudrais remercier le gouvernement et le peuple américain pour leur soutien sans faille à l'État d'Israël, a-t-il ajouté. M. Gallant est arrivé à Washington alors que le premier ministre israélien a récemment accusé le gouvernement américain d'avoir ralenti les livraisons d'armes à Israël en pleine guerre contre le Hamas palestinien. Des responsables américains exaspérés ont opposé force démenti à ces accusations, expliquant avoir gelé une seule livraison qui comprenait des bombes de 900 kg. M. Gallant a promis de tenter de surmonter les divergences entre son pays et les États-Unis, qui sont son plus grand soutien diplomatique et militaire.
Israël ne veut pas d'une guerre contre le Hezbollah, mais a le cas échéant la capacité d'infliger d'énormes dégâts au Liban, a prévenu son ministre de la Défense. Nous ne voulons pas de la guerre, mais nous nous préparons à tout scénario, a déclaré à la presse le ministre Yoav Gallant à l'issue donc de cette visite à Washington. Martin Griffiths a exprimé hier son inquiétude quant à la possible propagation de la guerre de Gaza dans la région, y compris en Cisjordanie. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU a déclaré que 528 Palestiniens, dont 133 enfants, ont été tués par les forces israéliennes ou par les colons juifs en Cisjordanie depuis le début de la guerre à Gaza. Les États-Unis s'inquiètent de la montée des actes antisémites et contre les musulmans depuis le début de la guerre à Gaza. Washington exprime ses préoccupations dans son rapport annuel sur l'état de la liberté religieuse dans le monde. L'antisémitisme et l'islamophobie ont considérablement augmenté dans le monde, a déploré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en présentant le rapport à la presse. Ici aux États-Unis, les crimes motivés par la haine et autres incidents visant à la fois les musulmans et les juifs ont augmenté de façon spectaculaire, a-t-il ajouté, et le président démocrate Joe Biden a promis à plusieurs reprises de lutter contre l'antisémitisme. La Cour suprême américaine a refusé hier d'empêcher le pouvoir exécutif d'intervenir sur les réseaux sociaux pour obtenir le retrait de contenu qu'il estime problématique, surtout en matière sanitaire. Les précisions de Yacouba Ouedraogo.
Par une majorité de 6 voix, dont le président de la Cour, John Roberts, les juges considèrent que les plaignants, dont les procureurs généraux de 2 États républicains, la Louisiane et le Missouri, n'ont pas d'intérêt à agir, car aucun d'entre eux n'a prouvé un risque significatif de préjudice qui serait attribuable au contact entre des responsables fédéraux et les réseaux sociaux. Une cour d'appel ultra-conservatrice avait limité les contacts entre la Maison-Blanche ainsi que des agences fédérales, dont les autorités sanitaires et le FBI, et les géants d'Internet au nom du premier amendement de la Constitution qui garantit la liberté d'expression. Cette décision leur ordonnait de s'abstenir de faire pression sur ces entreprises ou de les encourager significativement à retirer des contenus taxés par l'administration du président Joe Biden, de désinformation sur la vaccination contre le COVID-19 ou les résultats des élections. Le président républicain de la Commission des affaires judiciaires de la Chambre des représentants, Jim Jordan, dit regretter la décision de la Cour suprême accusant l'administration Biden de s'être livrée à une campagne de censure. En revanche, l'ONG Accountable Tech, qui prône une meilleure régulation des réseaux sociaux, s'est félicitée dans un communiqué du rejet d'une plainte sans fondement, selon elle.
Le chef des forces armées de Bolivie a été destitué et arrêté hier après avoir massé des hommes et des blindés devant le palais présidentiel à La Paz en affirmant vouloir restructurer la démocratie dans ce que le président Luis Arce a dénoncé comme une tentative de coup d'État. Le général Juan José Zuniga a été appréhendé et conduit dans un véhicule de police alors qu'il s'exprimait devant la presse à l'extérieur d'une caserne de la capitale. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, nos nouvelles économiques avec Nathalie Barge.
Caudal Minerals a publié un rapport sur les travaux d'exploration de la mine de lithium Bougouni au Mali qui entrera en production au quatrième trimestre 2024. Le projet héberge 32 millions de tonnes de minerais avec 1,06% de lithium et un potentiel de hausse. L'usine devrait permettre la production annuelle de 125 000 tonnes sur 4 ans. La deuxième phase d'exploitation permettra de produire 230 000 tonnes de concentré jusqu'en 2036. Au Nigeria, où les autorités font la promotion des entreprises de télécommunications locales, une usine à Lagos produit annuellement 200 millions de cartes SIM depuis 2 ans. Toutes les cartes sont désormais produites dans le pays, a indiqué la commission nigériane des communications lors d'une session de formation pour les cadres des médias. Le rapport Gallup Global Emotion 2024 sur les expériences positives et négatives des gens a mesuré des indicateurs non traditionnels tels que le stress économique. La Guinée est en tête du classement mondial des émotions négatives. Plus de la moitié des 10 pays ayant le plus d'expériences négatives sont en Afrique subsaharienne. La Guinée est suivie par le Tchad, la Sierra Leone, la RDC, le Libéria, le Bénin et les Comores. Les résultats sont basés sur 146 000 entretiens avec des adultes dans 142 pays et régions en 2023.
C'était tout pour les nouvelles économiques. À présent, plongeons-nous dans le monde sportif sous la direction de Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Pour commencer, les nouvelles de l'Euro 2024.
Oui, la Géorgie, qui dispute le premier Euro de son histoire, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale en battant 2-0 le Portugal, déjà qualifié dans le groupe F en tant que meilleur troisième, tout comme la Turquie qui finit deuxième grâce à sa victoire 2-1 face à la République tchèque. Les oppositions des huitièmes de finale qui commencent ce samedi 29 juin sont connues. La Suisse fait face à l'Italie, l'Allemagne affronte le Danemark, l'Angleterre joue contre la Slovaquie, l'Espagne croise la Géorgie, la France va faire face à la Belgique, le Portugal à la Slovénie, la Roumanie joue contre les Pays-Bas et l'Autriche affronte la Turquie.
Direction le Cameroun, sur les traces de Joël Embiid, enfant du pays devenu géant du basket.
Oui, originaire du Cameroun, Joël Embiid est une étoile confirmée de la NBA, jouant pour les Philadelphia Sixers. Le joueur qui va participer aux Jeux Olympiques de Paris en tant que membre de Team USA est une source de fierté et d'inspiration dans son pays d'origine. Les précisions avec Jenny Niwa.
Le collège de Damas, un quartier cossu de Yaoundé, se targue d'avoir bercé l'éducation sportive du géant prodige de la NBA, Joël Embiid. Le personnel de l'établissement retrace les pas de l'ancien élève avec fierté.
On l'a vu commencer. Il était au volley-ball d'abord, avant d'arriver au basket. Et puis, c'est grâce à son oncle, petit frère, à son père, qui vit du côté de la Côte d'Ivoire, qu'il a amené au basket en regardant sa taille et son potentiel. Et lui-même étant ancien basketteur, il a compris que le petit avait quelque chose.
Mais à Damas, plus d'une décennie plus tard, la fierté se mêle à la frustration de voir l'enfant du pays représenter une autre nation aux Jeux Olympiques de Paris.
Tout le monde aurait souhaité que Joël Embiid vienne jouer pour le Cameroun. Les Camerounais d'abord, les Camerounais. Je crois que même lorsqu'on voit le box-office américain, ils mettent toujours le Camerounais, Joël Embiid. Donc, nous savons qu'il est Camerounais. C'est vrai qu'il a eu une sollicitation avec la France aussi et il a choisi les États-Unis. Malgré le fait qu'il ait choisi, c'est un choix sportif.
Dans son club de Yaoundé, l'ascension du basketteur de 30 ans, qui évolue du haut de ses 2m13 au poste de pivot chez les 76ers de Philadelphie, continue de faire rêver.
Arriver en NBA, vu sa position actuelle, vu que bon, c'est lui qui portait plus Philadelphie dans les matchs, il m'a inspiré à jouer au basket et sa force de vouloir gagner les matchs, le courage, la rage qu'il a, c'est ça qui m'inspire de jouer au basket.
Selon Yves Sala, ancien vice-président du club formateur d'Embiid, la réussite du joueur permet à tous les jeunes de se dire qu'ils peuvent le faire.
Merci Guinée.
Bye-bye. monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Salani toujours en votre compagnie. Pour finir, découvrons les reportages et analyses approfondies dans notre segment magazine. Au Cameroun, la saison pluvieuse accroît le calvaire des habitants de quartiers difficiles d'accès. Les routes y sont pour la plupart dégradées, ce qui limite les déplacements et cause des désagréments aux conducteurs de mototaxis qui desservent les 10 quartiers. C'est notamment le cas du lieu-dit Eligue-Edou, dans le 4e arrondissement à proximité de la principale base aérienne du pays. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
Ce que vous voyez, notre quartier, vraiment, ça ressemble à un village. Vraiment, nous sommes juste derrière la base.
Théophile Oloa exprime un sentiment partagé par plusieurs habitants du quartier Eligue-Edou dans le 4e arrondissement de Yaoundé à cause du mauvais état de la route de ce quartier en saison pluvieuse.
Il y avait, comme vous même voyez, il y a une inondation là. Donc quand tu clés là, vraiment, c'est pas facile. Hein. C'est la catastrophe. Hein.
Toutes les voies d'accès qui mènent vers le quartier sont en état de délabrement avancé. Jean-Joël Mbissa, un élève âgé de 7 ans, a cultivé la résilience au mauvais état de la route sur le chemin de l'école.
Quand il pleut, je monte la colline, après je porte les babouches. Après quand j'arrive à l'école, je porte les chaussures.
Les travailleurs en saison pluvieuse sont aussi résilients et continuent de vaquer à leur occupation. Henri Bétélé est un jeune menuisier.
Parfois, on vient avec deux paires de chaussures. L'une, dès qu'on traverse, si on garde ça quelque part et on continue avec l'autre. Parfois, ça glisse, on n'arrive pas à marcher, même quand il pleut, l'eau déborde, même comme ils ont commencé à arranger là.
Christine Bissaï, une couturière, raconte sa déconvenue dans le quartier.
La petite source là, ça traversait la route. Parfois, nous sommes obligés de passer par van pour aller dans nos occupations. Parfois, si vous êtes peut-être en babouche ou déchaussée.
Il y a près d'un an et demi, des engins de terrassement avaient entamé des travaux dans ce quartier, suscitant un réel espoir. Mais ces travaux sont aujourd'hui à l'arrêt. Les conducteurs de mototaxi qui desservent le quartier sont eux aussi aux abois. Jean Haïssi est l'un d'eux.
Toute la population du quartier Eligue-Edou, Eligue-Mbida et Likolo se pose des questions. On n'arrive pas à comprendre exactement. Aucune justificative n'a été donnée sur l'arrêt des travaux. En fait, les pluies impactent très négativement dans notre activité. Déjà, actuellement, ici, quand il pleut vraiment, c'est impraticable. Hein. Les motos ne circulent pas. Et à un moment donné, on a tendance à augmenter un peu le prix. Peut-être une distance de moins de 100 mètres, on peut prendre 100 francs quand il ne pleut pas. Et quand il pleut, on se retrouve à prendre peut-être 300, 400. Donc vraiment, ça impacte très négativement. Et on n'arrive même pas à travailler. Il y a la plupart des collègues qui gardent même des motos.
À la communauté urbaine de Yaoundé, l'on affirme qu'une vaste campagne a été lancée en début d'année pour le réaménagement de certains tronçons routiers dans le 4e arrondissement. Mais le quartier Eligue-Edou ne figure pas parmi les bénéficiaires. 4 milliards de francs CFA ont été affectés en avril dernier pour financer 18 projets routiers de la capitale. Yaoundé, Emmanuel Juntap pour VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Le phénomène de suicide est très répandu en Côte d'Ivoire, qui a le 3e taux de suicide le plus élevé en Afrique, avec 23 cas chaque année. Un sujet préoccupant, mais qui reste tabou dans la société ivoirienne. Le reportage de notre correspondant à Abidjan, Ange Nemenyo.
Suspect 95 est un jeune artiste ivoirien qui a failli mettre fin à sa vie. Le décès prématuré de sa femme a eu un effet difficile pour sa santé mentale. Il s'est fait prendre en charge, sinon il ne serait plus de ce monde.
Dès que j'entends santé mentale quelque part, j'apparais. Parce que je suis conscient des dégâts, des problèmes, des préjudices que ça crée à notre jeunesse, que ça nous crée tous. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est en Afrique que c'est tabou. Sur ce côté-là, vraiment, j'applaudis l'Occident parce que là-bas, c'est plus free quand même d'en parler. Notre problème ici, on ne s'exprime pas. On ne parle pas, on ne se libère pas, on ne s'autorise pas à être vulnérable.
Et ce manque de communication a conduit beaucoup de jeunes Ivoiriens au suicide. Le pays a encore en mémoire la mort de l'étudiant Ibrahim Diagabaté, qui se serait donné la mort par pendaison. Des initiatives citoyennes ont dès lors été lancées comme le Programme National de Santé Mentale, piloté par le ministère ivoirien de la Santé. Professeur Kouassé Mamedar, directeur coordonnateur du Programme National de Santé Mentale.
Il faut parler de ces jeunes qui ont besoin de soins, qui ont besoin d'attention, de prise en charge. C'est une vague, une mobilisation citoyenne, une mobilisation sociale au service d'une cause noble, parce qu'il s'agit de la vie, il s'agit de la santé, il s'agit du bien-être, il s'agit du développement des jeunes. Et pour nous, nous sommes satisfaits de la mobilisation historique des jeunes qui osent parler de ce qu'ils vivent, qui osent parler de ce qui ne va pas bien. Pour nous, c'est un espoir historique.
D'autres initiatives ont également vu le jour, dont le Festival de musique urbaine d'Anomabo, consacré cette année à la santé mentale. À Salfo, commissaire général du FEMUA.
On a vu des policiers se suicider. On a vu même des médecins se suicider. La Côte d'Ivoire est placée en troisième position du pays le plus suicidaire en Afrique. Ça ne va pas le pays, mais il faut le dire, ça va heurter nos mentalités. Pour que le changement, elle a parlé du changement, il faut un changement comportemental pour que tout le monde puisse faire profiter, pardon, puisse profiter de sa jeunesse.
Selon le Programme national de la santé mentale, plus de 60 000 personnes souffrent de maladies mentales en Côte d'Ivoire. Pour prévenir cette maladie, les responsables du programme préconisent une hygiène de vie, une identification et une intervention précoce en cas de souffrance psychologique. Ange Bijounoménian pour VOA Afrique, Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Les 32 pays de l'OTAN ont nommé Mark Rutte comme prochain secrétaire général. Il succédera à Jens Stoltenberg le 1er octobre. En pleine guerre en Ukraine, son leadership est salué par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, tandis que la Russie reste critique. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Paris Jean de Glignassi, directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste des questions russes.
Je crois que, en fait, il va y avoir à Washington, dans quelques mois, le 75e anniversaire de l'OTAN. Et là, évidemment, les conditions seront posées en ce qui concerne l'Ukraine. La question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN va être posée. On sait qu'actuellement, les États-Unis ne sont pas très favorables à aller très vite dans ce domaine. Ils sont relativement réticents. Alors que d'autres États membres, dont la France, sont plutôt en faveur de l'accélération du processus. Donc, évidemment, Rutte devra naviguer, si je puis dire, entre ces deux positions. Ensuite, évidemment, la guerre en Ukraine est un défi important, mais peut-être moins qu'on veut bien le dire, parce que d'une part, les décisions importantes sur ce plan sont quand même prises à Washington, et d'autre part, l'aide est dispensée par les États membres individuellement. Donc l'OTAN joue principalement le rôle de coordinateur, mais comme d'ailleurs ça a été rappelé à plusieurs reprises par Stoltenberg, ce n'est pas l'OTAN qui distribue directement de l'aide à l'Ukraine. Donc, en fait, le défi principal qui se présentera à M. Rutte, ce sera l'élection éventuelle en cas de victoire de Trump et sa position ambiguë vis-à-vis de l'OTAN et de l'article 5 de l'OTAN.
Et comment l'expérience de Mark Rutte en tant que Premier ministre néerlandais peut-elle influencer et améliorer son approche pour renforcer l'OTAN et les relations transatlantiques?
C'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui a été aux affaires, comme on dit, qui a une expérience gouvernementale. C'est une des raisons d'ailleurs, parce que son expérience a été jugée positive, non seulement par beaucoup de Néerlandais, mais en plus par d'autres États membres de l'OTAN et de l'Union européenne. Donc il a un certain crédit pour ça, et je crois que c'est bon pour l'organisation qu'il va présider, c'est bon pour l'OTAN. Et c'est sûr que pendant longtemps, les Pays-Bas ont été quand même un élève exemplaire de l'OTAN. Et c'est bien d'avoir pour l'OTAN un vrai politique, un homme qui a une vraie expérience et qui a traversé aussi quelques épreuves. Donc pour l'OTAN, c'est un bon choix.
Et quelle différence notable pouvons-nous attendre entre le leadership de Mark Rutte et celui de son prédécesseur Jens Stoltenberg en termes de stratégie et de gestion des crises?
Écoutez, honnêtement, ça m'est très difficile de le dire. J'ai trouvé que Stoltenberg avait un grand sens de la diplomatie dans sa façon de gérer notamment la crise en Ukraine, dans son souci de tenir un point moyen entre les sensibilités des différents États membres, d'éviter de jeter d'huile sur le feu, parce que évidemment il y a un côté brinkmanship dans la gestion de la crise ukrainienne, et je pense qu'il a été très très bon là-dedans, et je suis sûr que Ruth fera la même chose.
C'était Jean de Glinasty, directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste des questions russes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Clôturons nos dossiers du jour avec le premier débat de l'élection présidentielle américaine de 2024 qui aura lieu jeudi. Mais ce ne sera pas la première fois que les candidats s'affronteront. La correspondante principale de VOA à Washington, Caroline Presutti, se penche sur l'année 2020 pour trouver des indices de ce que nous verrons et entendrons lors du débat entre le président Joe Biden et l'ancien président Donald Trump.
Les deux candidats à la présidentielle de novembre s'étaient déjà rencontrés lors d'un débat en 2020. Écoutons Joe Biden et Donald Trump lors de cette dernière rencontre.
Que les gens ne veulent pas répondre à cette question. Je ne veux pas répondre à cette question. Pourquoi ne répondriez-vous pas à cette question?
L'un d'entre eux était à son premier mandat présidentiel, Donald Trump.
J'ai fait plus en 47 mois. J'ai fait plus en 47 mois, Joe.
L'autre, un politicien de longue date, Joe Biden.
Les gens ont besoin d'aide.
Le match de 90 minutes a été marqué par le chaos et les interruptions.
Qui va la fermer, mec? Écoutez, qui est sur votre liste, Joe? Qui est sur votre liste?
C'est un peu présidentiel.
VOA a demandé aux électeurs ce qu'ils se rappelaient de ce débat.
Oh mon Dieu, c'était il y a longtemps.
Je me souviens que Trump était le meilleur débatteur.
Trump utilisait manifestement des astuces très enfantines, l'interrompant constamment, et Biden n'était pas du tout d'accord avec cela.
Le même théâtre politique est attendu jeudi. Chris Wallace, modérateur du débat 2020.
Monsieur, non, vous allez devoir arrêter.
Mais ce débat pourrait être tempéré en raison de nouvelles règles. Le microphone d'un candidat sera coupé lorsque ce n'est pas son tour de parler. L'électeur de Biden, Chet Edelman, apprécie l'idée.
Oui, j'aimerais qu'on en arrive par là. Mais vu le dernier débat, c'est une bonne politique, un bon protocole.
L'une des répliques les plus mémorables du débat de 2020 a été prononcée lorsqu'il a été demandé au président Trump de condamner les suprémacistes blancs. Les analystes disent qu'il a lancé une alerte. Donald Trump.
Des garçons fiers, les fiers garçons, reculez et restez à l'écart.
On a demandé aux deux hommes s'ils accepteraient les résultats des élections cette année-là. Donald Trump.
Si les élections sont équitables, je suis d'accord à 100%. Mais si je vois des dizaines de milliers de bulletins de vote manipulés, je ne peux pas accepter cela.
Joe Biden, alors candidat à la présidence.
Je l'accepterai, et lui aussi. Vous savez pourquoi? Parce qu'une fois que le vainqueur sera déclaré, que tous les bulletins de vote auront été comptés, que toutes les votes auront été comptés, ce sera la fin de l'histoire.
Lorsque Trump a perdu l'élection, ses partisans ont pris d'assaut le Capitole le 6 janvier pour tenter de renverser le résultat. Les analystes prévoient que ce débat ne fera pas changer d'avis les électeurs qui ont déjà pris leur décision. Peter Lodge, directeur de l'École de médias et des affaires publiques de l'Université George Washington.
Les partisans de Joe Biden ne tiendront pas compte de ces lapsus ou de ces inexactitudes, car Joe Biden est comme ça, il a toujours été comme ça. Et les partisans de Trump vont également dire que, eh bien, c'est juste Trump. Il s'exprime sur un coup de tête. Prenez-le au sérieux, pas au pied de la lettre.
Ben Cox, un électeur indécis, c'est ce qu'il veut voir jeudi.
beaucoup plus d'amour, je pense, pour nous rassembler.
Un deuxième débat entre les candidats à la présidence est prévu en septembre, mais cela pourrait dépendre de la façon dont les choses se dérouleront jeudi.
C'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre attention. Je suis Nani Salani. La mise en onde de ce journal a été assurée par...